Les séminaires du Collège de France.
Et bien pour donc le séminaire, je remercie ceux qui étaient au cours et qui sont restés. Nous allons écouter et avoir le plaisir d'entendre Philippe Drapeau-Contime, qui nous vient de Rennes, où il est maître de conférence. C'est un spécialiste de philosophie du langage, aussi de métaphysique. Il est co-directeur du Centre Atlantique de philosophie. À Rennes, c'est toujours le cas?
Non, ça a changé. Mais... Ah.
D'accord. Il est aussi connu ici au Collège de France pour participer aux activités du groupe d'études de métaphysique organisé par la chaire de Claudine Tiercelin. Et parmi ses publications, il y a un petit livre paru chez Vrin qui s'appelle « Qu'est-ce que l'identité ?» et que je recommande. Donc aujourd'hui, nous allons l'entendre sur des questions qui touchent à la référence peut-être à l'identité. Le titre, c'est « Y a-t-il un tigre étalon ?» Et je vais me mettre dans la salle pour voir les diapos. À toi, Philippe.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, François, pour ton invitation et ton accueil. Je suis vraiment très heureux et très honoré de parler dans le cadre de ce séminaire. Aujourd'hui, ce dont je vais parler se situe dans le prolongement de l'une des questions qui anime les travaux de François Recanati, à savoir élucider le mécanisme de la référence et le sens des termes singuliers, à cette différence près que je vais aujourd'hui intéresser aux termes d'espèces naturelles, donc des termes comme or, tigre, chêne, moineau. Plus précisément, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est examiner ce qu'on appelle une version de la théorie causale de la référence que Saul Kripke esquisse dans le Naming and Necessity, la logique, traduit en français par la logique des noms propres au début des années 70. Donc une version de la théorie causale de la référence que Kripke développe spécialement pour les termes d'espèces naturelles. Et je voudrais la confronter non pas en examinant les termes d'espèces en général, mais plus spécifiquement les noms vraiment scientifiques d'espèces tels qu'ils sont utilisés en zoologie. Et donc, comme j'espère pouvoir le montrer, je pense que la confrontation de la théorie de Kripke à la nomenclature zoologique lui est favorable à la théorie. Ça veut dire que l'explication que Kripke donne de la façon dont la référence des termes d'espèces est fixée correspond tout à fait à la façon dont les zoologistes assignent la référence à des noms de taxons. Je commence par un petit rappel de la position de Kripke. Dans la troisième conférence de Naming and Necessity, Kripke s'attache à réfuter ce qu'on peut appeler la conception descriptiviste des termes d'espèces naturelles. Selon cette conception, les termes d'espèces naturelles, donc termes comme chêne, tigre, etc., sont avant tout des termes descriptifs, c'est-à-dire des termes qui expriment des propriétés et des caractéristiques que des objets doivent satisfaire pour tomber dans l'extension du terme. Par exemple, dans le cas de, si on prend l'exemple du terme d'espèce le tigre, le terme aurait sa référence fixée par une description définie du genre le félin carnivore long de 3 mètres, dont le pelage est jaune, rayé de noir, etc. Et un objet tomberait, dans ce cas-là, selon cette conception, un objet tombe dans l'extension du tigre, on peut appliquer correctement le terme tigre à cet objet, si et seulement si cet objet satisfait toutes les propriétés qui figurent dans la liste, ou du moins la plupart d'entre elles. Donc, à l'encontre du descriptivisme des termes d'espèces naturelles, Kripke a adressé une batterie d'objections que je ne vais pas discuter aujourd'hui, parce que ce n'est pas le propos, et je vais directement m'intéresser à la théorie qu'il développe en lieu et place de la théorie descriptiviste. Kripke donc défend, je vous ai dit, une version de la théorie causale de la référence. Alors pourquoi causale Parce que dans ce cadre-là, le facteur qu'on juge déterminant pour expliquer pourquoi tel terme s'applique à telle classe d'objets, ce n'est pas une description, c'est-à-dire le terme exprimerait une description, et puis l'espèce qui serait désignée serait celle qui satisfait le mieux la description. Donc le facteur déterminant, c'est un facteur causal, à savoir le fait qu'il y a une relation causale, plus ou moins directe, entre l'usage du terme, notamment celui qui est le stipulateur du terme d'espèce, celui qui introduit ou qui baptise l'espèce, et l'espèce représentée par ces exemplaires concrets. Alors, plus exactement, Kripke, dans la logique non propre, soutient que les termes d'espèce, en fait, ne doivent pas être classés comme des adjectifs ou des termes descriptifs, ce sont avant tout pour lui des noms. Donc, des expressions qui ont pour but de nommer, ça peut paraître trivial, mais c'est-à-dire de faire référence et non pas de décrire ou d'attribuer des caractéristiques. Et plus précisément, il soutient que ces noms, les termes d'espèce, ont leur référence fixée par ostension, monstration, d'un échantillon restreint d'exemplaires lors du baptême de l'espèce. Donc, le baptême, ça n'a rien forcément de cérémonial ou de ritualisé, ça peut être implicite, c'est simplement la première fois où l'on nomme l'espèce en question. Et donc, s'il fallait réexpliciter ce baptême par ostension, qui selon Kripke fixe la référence du terme tigre, par exemple, eh bien, il faudrait plutôt dire, ça serait quelque chose comme désormais. Le terme désignera l'espèce qui est exemplifiée par ces individus, et là on imagine que les démonstratifs pointent des individus que le stipulateur du nom est en mesure de percevoir directement. Alors je voudrais insister sur le sens quand Kripke dit que la référence des termes d'espèce est fixée par ostension sur quelques exemplaires. Je voudrais insister sur le sens fort que revêt le terme de fixation et de la référence sous la plume de Kripke. Kripke ne se contente pas de dire que la monstration assigne une référence au terme d'espèce. Il veut insister sur le fait que cette référence va être durable. C'est-à-dire, quelle que soit la révision qu'on sera fatalement amené à faire de notre description du tigre, de l'espèce tigre, de l'évolution des connaissances, les usages ultérieurs du terme tigre dans les locuteurs du futur seront, si tout va bien, la référence sera la même que lors de la référence des usages originaires lors du baptême. C'est-à-dire que la fixation lors du baptême par ostension sur les exemplaires stabilise la référence. Et il y a un enjeu très grand, parce que l'enjeu, évidemment, c'est rendre compte, ce que veut faire Kripke, du moins sa version de la théorie causale de la référence a été exploitée comme ça par la suite, c'est qu'elle rend compte de l'idée intuitive que oui, nos connaissances progressent en science, mais que jusqu'à un certain point, quand même, la référence est stable. C'est-à-dire, nous parlons toujours de la même chose, ce que nous appelons le tigre aujourd'hui, eh bien, c'est ce que les zoologistes, il y a 100 ans, appelaient c'était la même chose, la même espèce que celle que désignaient les biologistes il y a 100 ans, etc. Nos connaissances progressent, mais justement, pour rendre compte de l'idée du progrès des connaissances, il faut qu'on rende compte de l'idée qu'il y a un gond fixe dans nos connaissances. Quelque chose qui reste stable et nos représentations à propos de ces choses s'améliorent. Mais pour ça, il faut rendre compte de l'idée qu'il y a une certaine stabilité de la référence au travers de l'évolution des connaissances. Et donc là, c'est précisément ce qui se passe selon Kripke, parce que Kripke soutient que les usages ultérieurs du terme tigre vont hériter mécaniquement de leur référence des usages antérieurs le long d'une chaîne causale de transmission du terme d'espèce qui aboutit à un baptême ostension où là la référence est fixée par monstration de quelques spécimens. Alors que, évidemment, si on est dans la conception descriptiviste, si ce qui fait la médiation, la connexion entre un terme et l'espèce, c'est une description, dès lors que notre description de l'espèce change ou on la révise, elle est modifiée, alors ça n'implique pas forcément une rupture qu'on change de référence, parce que deux termes peuvent avoir des sens différents et néanmoins continuer à faire référence, mais en tout cas, le changement de description ne garantit plus qu'on parle de la même chose. Il y a un risque très grand que l'on perde la référence en cours de route et donc qu'on change de sujet, comme on dit. Donc la conception descriptiviste est plutôt mal placée pour sauver l'idée d'une stabilité de la référence au travers du changement des connaissances, tandis que la version de la théorie causale de Kripke, elle, est évidemment bien placée. Mais c'est une version très forte, puisque ce n'est pas simplement une théorie causale de référence, c'est une théorie causale historique. C'est-à-dire au sens où les usages originaires du terme lors du baptême, par extension, ont une autorité référentielle sur les usages ultérieurs. Alors moi, je voudrais aujourd'hui discuter une des alors c'est ça que je voudrais dont je voudrais discuter aujourd'hui de sa théorie causale historique de la référence pour les termes d'espace naturel et notamment de conséquences immédiates de sa théorie qui peuvent paraître de prime abord surprenantes, à savoir que si vraiment la référence d'un terme d'espèce est fixée par quelques spécimens au départ, alors ces spécimens jouent le rôle d'étalon de la référence de ce terme d'espèce. Donc, au sens où, si le terme tigre a sa référence fixée sur quelques exemplaires, à l'origine, alors, la condition pour figurer dans l'extension du terme tigre, c'est pas satisfaire telle propriété observable, telle caractéristique, c'est juste être conspécifique à 16 exemplaires. Et donc ces exemplaires sont en quelque sorte des tigres par définition, puisque c'est eux qui donnent la règle, qui déterminent en quoi consiste en fait être un tigre, c'est-à-dire, ou si je le dis de façon métalinguistique, en quoi consiste tomber dans l'extension du terme tigre. Et donc pour ces quelques tigres étalons, eh bien il est vrai a priori, et non pas empiriquement, qu'ils sont des tigres, tandis que pour l'immense majorité de tous les autres animaux que vous pouvez rencontrer, évidemment, ça va être une question empirique que de savoir si c'est un tigre. On ne peut pas, si vous rencontrez un animal comme ça, on ne peut pas vous dire a priori c'est un tigre. Vous devez l'observer, voir s'il présente les traits caractéristiques. Alors là, par exemple, vous devez, selon la théorie de Kripke, vous devez vérifier empiriquement que, en dehors de ce petit échantillon d'exemplaires qui fixe la référence du terme tigre, vous devez vérifier si les autres animaux, pour savoir si c'est un tigre ou pas, s'ils sont bien dans la relation d'être de la même espèce que vos exemplaires d'origine. Mais ça, pour ça, il faut les observer. Il faut vérifier si les individus que vous vous demandez si sont des tigres ou pas possèdent les propriétés ou les caractéristiques qui font qu'ils sont de la même espèce que les exemplaires étalons. C'est à peu près assez étonnant de dire que nos exemplaires du baptême par ostension, il est vrai a priori qu'ils appartiennent à l'espèce qu'ils servent à nommer, mais c'est une conséquence, alors certains trouvent que c'est une conséquence étonnante mais rafraîchissante, d'autres trouvent que c'est indésirable voire légèrement scandaleux. En tout cas, c'est parfaitement assumé par Kripke, qu'il a revendiqué tout à fait, qu'il assume tout à fait dans l'extrait que je vous donne de la logique des noms propres et que je vous lis. Alors voici ce que dit Kripke. L'or, alors c'est une traduction de François Recanati, puisque la naming and necessity a été traduit en 1982 par François. L'or est la substance exemplifiée par les spécimens que voilà, ou du moins par la plupart d'entre eux. Cette définition exprime une vérité a priori, tout comme la définition du mètre. Un mètre, c'est la longueur de la barre étalon S. Cette définition fixe une référence. Je crois qu'en général, c'est ainsi qu'on fixe la référence des noms d'espèces naturelles, que ces espèces soient chimiques, végétales ou animales. On définit la substance comme l'espèce qu'exemplifient les éléments d'un échantillon donné. Donc, dans ce passage, Kripke est en train de comparer le rôle que jouent les exemplaires qui fixent la référence d'un terme d'espèce dans un baptême par ostension avec les étalons physiques qui servent à fixer les termes d'unité de mesure et notamment ici le terme d'unité de mesure, le mètre. Donc comme on le sait de 1889 à 1960 le terme le mètre a eu sa référence fixée comme étant, par convention, comme étant la longueur d'une certaine barre d'iridium, de platine iridium, qui était déposée dans le bureau des mesures à Sèvres. Donc c'est ce qu'on appelle le maître étalon, ou c'est ce que Kripke appelle la barre S. Donc c'est une convention, donc selon cette convention, une fois qu'on a fixé ainsi la longueur de 1 mètre, eh bien, ça détermine ce que ça veut dire mesurer 1 mètre. C'est-à-dire, mesurer 1 mètre, c'est quelque chose de mesurer 1 mètre si sa longueur coïncide exactement avec la longueur de la barre étalon. Et comme, trivialement, la barre étalon a la longueur qu'elle a, il est vrai a priori que la barre S, le mètre étalon, mesure 1 mètre. Voilà. C'est une définition, c'est une vérité a priori. Et ce que dit Kripke, c'est que ce qui est vrai de la barre S ou du mètre étalon est également vrai des échantillons qui servent à fixer la référence par ostension d'un terme d'espèce. Et donc, il y aurait des tigres étalons, pour reprendre notre exemple, comme il y a eu un mètre étalon. Alors, par exemple, prenons en 1844, Conrad Temminck décrit et nomme pour la première fois une sous-espèce du tigre qui est malheureusement éteinte aujourd'hui, le tigre de Java, au moyen d'un exemplaire. Donc à l'époque, quand on fait ça, c'est toujours vous tirez d'abord l'individu, puis après vous le naturalisez, c'est-à-dire vous l'empaillez, après il reçoit un petit numéro et il est mis quelque part dans la collection d'un laboratoire ou d'un musée. Donc je ne sais pas quel était, je n'ai pas retrouvé son numéro, mais appelons-le Raja, ce tigre individuel que Conrad Temminck a utilisé pour nommer, pour assigner une référence au terme d'espèce le tigre de Java. Eh bien, selon ce que dit Kripke ici, il est vrai, comme Raja, c'est l'individu qui fixe par ostension la référence du terme d'espèce, le tigre de Java. Il est vrai, a priori, que Raja est un tigre de Java, alors que, bien entendu, pour tous les autres animaux de la Terre, c'est une question empirique de savoir s'ils sont, oui ou non, des tigres de Java. Donc, plus généralement, Kripke soutient, c'est ça les conséquences qui m'intéressent dans l'hypothèse de Kripke, parce que ce sont des conséquences tellement fortes qu'elles permettent mieux de la tester. Plus généralement, pour tout terme d'espèce E, qui est introduit par ostension d'un échantillon d'exemplaires I1, I2, hein, il est vrai a priori que I1 et I2 sont de l'espèce E. Ou, pour le dire autrement, l'hypothèse de Kripke revient à dire que nos jugements concernant les spécimens qui ont servi à baptiser un terme d'espèce, à baptiser l'espèce, sont immunisés à l'encontre de l'erreur de classification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rationnellement envisager qu'on pourrait découvrir que, en fait, on se soit trompé et que ces exemplaires, I1, I2, là, ne soient pas de l'espèce E, mais d'une autre espèce E'. L'erreur de classification à leur égard est absolument, est a priori exclu. Alors qu'évidemment, on peut toujours se tromper, pour tous les individus extérieurs à cet échantillon d'origine, on peut toujours se tromper sur l'espace à laquelle ils s'appartiennent. Donc la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que les termes d'espèces naturelles ont bien leur référence fixée au sens fort, où le dit Kripke, c'est-à-dire au sens fort, où ça implique à la prioricité et l'immunisation à l'encontre de l'erreur de classification. Donc, est-ce qu'il y a des tigres étalons comme il y a un mètre étalon? Alors, avant de répondre, de rentrer un peu dans le nerf du sujet, il y a deux clarifications qu'il faut faire, je pense, sur ce que je viens de présenter de Kripke. Premièrement, alors c'est surtout du côté de la philosophie de la biologie, il y a des auteurs qui disent que la version de la théorie causale de référence de Kripke est forcément incorrecte car elle implique une thèse qui serait métaphysique, qui serait complètement obsolète, à savoir l'essentialisme. Alors l'essentialisme, ça veut dire beaucoup de choses, il y en a beaucoup de choses là-dedans. Là, par exemple, l'idée que si on dit qu'il est vrai a priori que Raja est un tigre de Java, ça sous-entend qu'il l'est essentiellement ou nécessairement. Il n'aurait pas pu être d'une autre sous-espèce que celle à laquelle il appartient actuellement. Et alors, Il est vrai que Kripke soutient par ailleurs, dans logique et non propre, il défend, il ne s'en cache pas, puisque c'est l'une des marques, on va dire, de la logique et non propre. C'est en grande partie un livre de philosophie du langage, et c'est aussi en partie un livre de métaphysique. Et dans son volet métaphysique, la logique et non propre défend effectivement l'essentialisme, et notamment l'idée que les individus appartiennent essentiellement à l'espèce à laquelle ils appartiennent actuellement. Mais chez Kripke, c'est une option. C'est-à-dire que quand vous avez dit qu'il est vrai a priori que par exemple, que Raja était un tigre de Java, ça en soi, alors ça c'est une conséquence de la théorie globale de la référence, mais ça n'implique nullement la thèse essentialiste qui consiste à conclure de l'a priori au nécessaire qui dirait il est nécessaire que Raja, ou il est essentiel à Raja d'être un tigre de Java. Kripke prend aussi cette seconde thèse, mais pour des raisons métaphysiques totalement indépendante, liée à son essentialisme métaphysique, qui n'ont rien à voir avec la théorie de la référence. Et alors, vous pouvez dire, ça implique, l'a priori implique le nécessaire. Non, parce que Kripke est célèbre pour avoir défendu qu'il faut distinguer complètement les deux catégories. Et notamment dans le cas du maître étalon, par exemple, c'est très célèbre, Kripke dit, il est vrai a priori que la barre S mesure un mètre, mais la barre étalon, mais bien sûr qu'il est contingent qu'elle mesure un mètre, car dans un autre monde possible, elle aurait pu être plus longue qu'elle ne l'est actuellement. Et donc, elle aurait pu ne pas mesurer un mètre, bien que dans notre monde actuel, nous savons a priori qu'elle mesure un mètre. Donc, Kripke défend la thèse qu'on appelle de l'a priori contingent, et on peut, si on est gêné, si on ne veut pas se mouiller avec des questions d'essentialisme, on peut tout à fait prendre la thèse de la prioricité que j'ai présenté, c'est-à-dire les exemplaires qui servent à nommer par ostension un terme d'espèce, il est vrai a priori qu'il appartient à cette espèce, sans prendre la thèse essentialiste. Deuxième point de clarification concernant la question de savoir que Kripke nous dit, voilà, j'ai présenté ça, c'est une version de la théorie causale de la référence. La référence d'un terme d'espèce est assignée par ostension. On conteste souvent ce point en disant que ce n'est pas possible d'avoir une théorie purement causale de la référence à cause d'un problème qui est celui de l'indétermination de l'ostension. C'est-à-dire, si je veux, l'histoire ne peut pas être aussi simple que tiens, j'ai un terme d'espèce, c'est un terme de sous-espèce, le tigre de Java, tiens, j'ai Raja sous la main, et je montre Raja, je dis, le tigre de Java, c'est ça. Et je pointe Raja. Alors, ou en disant, c'est tous les individus qui sont de la même sorte que ça. Alors, ça ne peut pas, effectivement, ça ne suffit pas de montrer Raja pour assigner une référence au terme de sous-espèce. Parce que le problème est que, en fait, on ne sait pas exactement ce que vous pointez. Alors, il est sûr que vous pointez un spécimen. Mais ce que vous voulez, ce n'est pas évidemment faire référence au spécimen, mais à la sorte à laquelle il appartient, à une certaine sorte à laquelle il appartient. Or, Raja appartient à un très grand nombre de sortes naturelles qui sont emboîtées les unes dans les autres. Donc, Raja appartient à la sous-espèce des tigres de Java, et c'est ça, en fait, votre cible, quand vous voulez fixer la référence du terme tigre de Java. Mais il appartient aussi à l'espèce des tigres. Il appartient aussi à la famille naturelle des panthères, au genre des panthères. Il appartient à la famille des félins. Il appartient à l'ordre des carnivores. Il appartient à la classe des mammifères. Parmi toutes ces classes naturelles qui s'offrent à moi quand je pointe Raja, il faut bien que je discrimine et que je dise laquelle. Et donc, je vais être obligé de dire quelque chose de plus précis en disant par tigre de Java, je désigne tous les individus qui sont de la même sous-espèce que Raja. La même sous-espèce. Ou alors, si c'est une espèce, je veux dire la même espèce que. Ou alors, si c'est le genre, je veux dire le même genre que. Donc, je vais devoir introduire une condition descriptive minimale, c'est-à-dire ici, la notion quand même technique en biologie de être de la même sous-espèce que. Ou, si c'est une espèce, être de la même espèce que. C'est-à-dire utiliser en biologie ce qu'on appelle la catégorie espèce. Ce qui fait de la théorie causale, enfin, je pense que Kripke va plutôt dans ces. Ce n'est pas quelqu'un qui défend une théorie purement causale de la référence. On voit clairement qu'il y a des éléments descriptifs qui doivent être invoqués lors du baptême pour restreindre, pour exactement délimiter exactement la classe à laquelle on veut désigner. Donc on peut appeler ça une théorie hybride de la référence, mais on reste franchement dans le pôle, on reste quand même dans le cadre d'une théorie causale de la référence. Pourquoi ? Parce que d'une part, la condition descriptive qui est rajoutée est très pauvre et minimale. Ce que nous ne mettons pas au moment du baptême par ostension, nous ne mentionnons pas le phénotype, les propriétés caractéristiques, observables, tout ça ne figure pas dans le baptême par ostension. On est juste obligé d'utiliser la catégorie assez formelle de « être de la même espèce que » ou « être de la même sous-espèce que ». Et le poids des exemplaires reste énorme parce que quel que soit le petit élément descriptif qu'on utilise pour délimiter exactement la classe que l'on veut, les exemplaires du baptême par ostension, eux, seront dans cette classe. Donc ça ne touche pas à la thèse d'a prioricité ni la thèse d'immunisation. Elle reste toujours en place, même si on rajoute cet élément descriptif, ce qui montre que leur poids est très fort. C'est-à-dire le poids de la contrainte causale, c'est-à-dire le fait que nous allons réussir à désigner une espèce parce que nous sommes en interaction causale avec ces spécimens, reste la relation causale reste, même si elle ne détermine pas la référence, elle la contraint. Donc on reste encore plutôt du côté d'une théorie causale de la référence, et surtout, eu égard à l'enjeu qui est rendre compte de la stabilité de la référence, je pense que là, les vertus de la théorie de la référence, on la retrouve. C'est-à-dire que, certes, il y a des débats. Si on rajoute la condition être de la même espèce que, on utilise la catégorie espèce, ou être de la même sous-espèce, certes, ça peut créer un risque d'instabilité de la référence, parce que il est notoire qu'en biologie, les auteurs ne sont pas forcément d'accord sur quel est le concept d'espèce qu'il faut utiliser. Il y a un débat qu'on appelle le problème de l'espèce en biologie. Certains biologistes vont utiliser un concept dit écologique de l'espèce qui est plutôt fondé sur l'interfécondité et l'isolement reproductif. D'autres vont utiliser un concept plutôt écologique de l'espèce où on définit une espèce par sa niche écologique. D'autres vont utiliser un concept phylogénétique de l'espèce, où une espèce est plutôt une lignée évolutive. Alors oui, il peut avoir c'est-à-dire que d'un biologiste à l'autre, ce qu'on appelle l'espèce, la référence peut varier. Mais l'important est qu'en général, à l'intérieur des sous-branches de la biologie, prenez par exemple les ornithologues qui sont en train de nommer des espèces et des sous-espèces, il y a en général un accord sur quel concept d'espèce est pertinent. Donc de ce point de vue-là, le risque d'instabilité de la référence est relativement faible. Donc on reste quand même plutôt dans une théorie causale de la référence qui est légèrement enrichie par une condition descriptive, mais on reste dans une théorie causale de la référence. Alors ces clarifications étant faites, donc je reviens à ma question, est-ce que la référence des termes d'espèces naturelles est fixée au sens fort par ostension d'exemplaires ? Et donc, je voudrais montrer que effectivement, l'hypothèse de Kripke est vérifiée par les termes d'espèces qu'on utilise dans la nomenclature zoologique. Alors donc, je vais pas parler des termes qu'on appelle des termes d'espèces dans les langues vernaculaires, y compris qu'elles sont scientifiquement informées. Par exemple, moineau domestique, c'est correct d'utiliser le terme pour désigner ce que les gens appellent vulgairement le moineau qu'on trouve en France, à Paris, en France, partout, dans tout le paléarctique occidental. Mais le moineau domestique, ce n'est pas un nom scientifique d'espèce. Les noms scientifiques d'espèces sont en latin. Donc voilà. Donc moi, je vais vraiment utiliser les noms scientifiques d'espèces en zoologie, ceux qui servent à faire des classifications. Alors. Donc là, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles vous êtes familière. Donc juste, je rappelle, les noms scientifiques d'espèces en zoologie se présentent comme des binoms latins. Voilà, donc par exemple, pour le moineau que vous pouvez voir autour du collège, donc le moineau domestique, eh bien, le nom scientifique de l'espèce, c'est Passer domesticus. Vous avez le terme Passer qui renvoie au genre, et domesticus qui est l'épithète qui précise l'espèce. Et si vous voulez nommer une sous-espèce, bah là vous passez à un trinom latin, où là le dernier épithète indique, précise la sous-espèce, c'est-à-dire la population qui a des variations à l'intérieur des espèces, des espèces qu'on appelle polytypiques, qui ont plusieurs sous-espèces, et qui ont des, mais qui maintiennent quand même des échanges de gènes suffisants pour qu'on considère que l'unité de l'espèce n'est pas mise à mal. Donc on considère que c'est plutôt des sous-espèces. Donc si par exemple je voulais désigner plutôt la sous-espèce asiatique du moine domestique, ben, je l'appellerais, nous on l'appelle Passer domesticus indicus. Voilà, c'est le trinom latin. Alors pourquoi je me focalise sur les noms d'espèces et de sous-espèces en zoologie, alors qu'il y a plein de noms de taxons de rang supérieur, des noms de genre, des noms de famille? Parce que les noms de taxons en zoologie forment une hiérarchie, au sens où la référence des noms de taxons de rang supérieur est fixée par la référence des noms de taxons de rang inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on peut appeler des noms de taxons fondamentaux, au sens où leur référence n'est pas fixée par la référence de noms de taxons encore inférieurs, mais directement par, exactement comme le dit Kripke, par des désignations de spécimens. Concrètement, on verra, hein, vous introduisez un nom d'espèce, et puis une fois que vous avez fixé la référence en zoologie, vous pouvez utiliser l'espèce pour fixer la référence du genre auquel elle appartient, du genre passer par exemple. Après, une fois que vous avez réussi à fixer ainsi la référence du nom de genre, vous l'utilisez pour fixer la référence du nom de la famille auquel ce genre appartient, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi je m'intéresse ici aux noms d'espèces et de sous-espèces, parce que ce sont les noms de taxons fondamentaux, c'est le lieu où en biologie la référence est introduite. Après, c'est la machinerie de la nomenclature qui fonctionne. Alors, l'introduction et l'usage des noms de taxons obéissent à des règles très strictes qui sont systématisées dans un code qu'on appelle le Code international de nomenclature zoologique. Or, il existe... Alors, attendez, peut-être que... Non, je vais aller trop vite. C'est là, pardon, j'ai appuyé deux fois. Or, il existe... Donc voilà l'article qui m'intéresse. Il existe justement un principe qui est énoncé à l'article 61.1 du Code, qui décrit la procédure qu'on doit suivre lorsqu'on nomme pour la première fois un taxon. Donc, ce principe s'appelle le principe de typification. Or, on va voir la procédure qu'on doit suivre selon ce principe pour les noms d'espèces et de sous-espèces ressemble vraiment beaucoup à ce que Kripke dit concernant les baptêmes par ostension. Donc je vous lis l'énoncé du principe de typification. Alors c'est un peu jargonnant, ça, je vous préviens, c'est toujours comme ça un peu avec la nomenclature en zoologie. Tout taxon nominal de l'un des rangs des niveaux famille, genre et espèce a réellement ou potentiellement un type porte-nom. La fixation du type porte-nom d'un taxon nominal fournit, là c'est moi qui souligne, le standard objectif de référence pour l'application du nom de ce taxon. Quelles que soient les limites qu'un taxon peut avoir selon les zoologistes, ce sont les types porte-nom considérés comme inclus dans ces limites qui servent à déterminer le nom valide du taxon. Une fois fixés, les types porte-noms sont définitifs et assurent une objectivité permanente à l'application des noms. Voilà qui rappelle beaucoup un baptême ostensif à la Kripke. M'accorder sur une terminologie, donc vous voyez que le principe stipule que pour chaque taxon nouvellement décrit et nommé, le découvreur, celui qui le nomme pour la première fois, doit désigner ce que le code appelle un type porte-nom ou un type nomenclatural, et moi je dirais spécimen type, c'est aussi utilisé, hein, le spécimen type. Donc idéalement, ce spécimen type, c'est un individu unique. Alors ça peut être un échantillon. Alors chez Kripke, c'est un échantillon individu, mais idéalement, si vous avez un individu complet. Alors en paléontologie, c'est très dur d'avoir un individu complet, donc c'est pour ça que souvent ils prennent plusieurs échantillons, un échantillon d'individu incomplet pour jouer le rôle de spécimen type pour fixer le terme d'espèce. Mais lorsque, comme pour probablement le tigre de Java, vous avez un bon tigre de Java sous la main, idéalement, le code préconise d'utiliser un individu unique pour qu'il devienne, alors qu'on appelle le, holotype. Holotype, c'est quand vous avez utilisé le spécimen type et réduit à un individu unique qui sert à signer la référence du nom d'espèce ou de sous-espèce. Et il doit être... Alors lui-même, cet individu, il reçoit un nom propre, il a un nom propre. En général, c'est un numéro. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, on dit pudiquement prélevé sur le terrain. Enfin, il y a plusieurs 12 euphémismes. Alors maintenant, on le fait moins. Parce que maintenant, quand on évite de tuer pour nommer. Tuer pour nommer. Parce que pour la raison que, par exemple, pour les vertébrés, les nouvelles espèces de vertébrés qu'on trouve, c'est souvent des milieux insulaires. Et donc avec des populations réduites, donc si vous commencez à tuer un exemplaire, vous venez de tuer une partie quand même assez significative de la population, donc là vous venez de ça commence mal. Donc voilà, généralement on prélève des plumes, genre, par exemple pour les oiseaux, ce genre de choses, ou on prend des photographies, voilà. En tout cas, longtemps ça a été ça, le tuer pour nommer. Donc par exemple, voilà. Prenons un exemple. Alors là, je pense qu'on l'a, là, on l'a retrouvé mort, on ne l'a pas tué. Prenons une découverte d'oiseaux, de nouvelles espèces d'oiseaux, ce qui devient vraiment extrêmement rare par les temps qui courent, pas simplement à cause de l'érosion de la biodiversité, mais aussi parce qu'on commence quand même à avoir fait le tour des 11 000 espèces d'oiseaux qui peuplent la Terre. Donc en 2011, on a découvert une nouvelle espèce d'oiseau, le Puffin de Brian, dans les îles Hawaïennes. Et on a sur la base d'un spécimen qui porte le doux nom d'USNM 492-74. Alors USNM renvoie, c'est le sigle du Muséum national d'histoire naturelle de Washington. Donc l'individu est empaillé et conservé là. Et c'est lui qui sert d'holotype au nom Puffinus Bryani, le Puffin de Brian. Il est, comme dit le code, le spécimen qui fournit le standard objectif de référence pour appliquer ce nom. Ça veut dire que, selon le principe de typification, ça veut dire que désormais, Puffinus Bryani s'applique à tous les individus de la même espèce que USNM 492. C'est ça que... Donc on a quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à le baptême par ostension de Kripke. Alors, ce qui est important, c'est que le code précise dans la procédure qu'il faut suivre pour nommer un nouveau taxon. Donc, il faut typifier, donc trouver un spécimen type. Et le code demande aussi de faire ce qu'on appelle une diagnose et une description. Alors, la diagnose, c'est d'énoncer les caractéristiques de l'espèce, notamment celles qui la distinguent des espèces très similaires. Et la diagnose, c'est une description très précise du spécimen que vous avez collecté. Donc, par exemple, USNM 492, vous allez dire son envergure, les ailes déployées, la longueur de ses tarses, de son tibia, vous allez mesurer toutes les parties du bec, la coloration des parties inférieures, supérieures, du plumage, etc. Donc, vous faites une description. Mais le point important, c'est que le code précise bien que la diagnose et la description sont hors-jeu pour dire ce à quoi doit s'appliquer le terme d'espèce ou de sous-espèce. Seul le spécimen compte. La diagnose et la description sont des guides épistémiques pour ensuite apprendre à reconnaître l'espèce sur le terrain. Mais ça ne sert pas à fixer la référence du terme d'espèce. Donc le code précise, par exemple, que si vous faites une diagnose incorrecte, supposons vraiment vous êtes très maladroit et puis vous faites une diagnose qui correspond plus avec une espèce E' que l'espèce E à laquelle appartient votre spécimen, à quoi fait référence le terme d'espèce ? À E, pas E'. De même, le code insiste lourdement sur le fait que le spécimen type peut être atypique au sens lâche ou ordinaire du terme. Donc, ça ne peut pas être une contradiction dans les termes, mais ça veut dire vous découvrez une nouvelle espèce, mais pas de peau. Le premier spécimen sur lequel vous tombez, vous sentez que c'est une nouvelle espèce, mais je ne sais pas, il a une pigmentation, par exemple, le fin de Brian, je ne sais pas comment il est. J'ai vu la photo, mais supposons que USNM 492, je ne sais pas, il est une excroissance, ça arrive très souvent chez vous, une excroissance du bec, donc un bec d'une longueur anormale, une pigmentation anormale du plumage, mais il est atypique, il ne reflète pas les caractéristiques de l'espèce. Peu importe, dit le code. l'assignation de référence marche par la subdivision. Vous pouvez continuer à désigner tranquillement votre espèce Puffin bryoni grâce à ce spécimen. Le spécimen n'a pas à être caractéristique ou typique de son espèce, pourvu qu'il soit de cette espèce, enfin pourvu qu'il soit d'une espèce, quoi. Celle dont, justement, dont il détermine la limite. Donc voilà. Donc si vous faites une description, si le spécimen est tellement atypique que votre description colle mieux avec une espèce E', alors que votre spécimen il appartient à une espèce E, la référence est sur l'espèce E et pas sur du nom d'espèce et pas sur E'. Donc après tout ce qu'on vient de dire, puisqu'on voit que la diagnose et la description sont hors jeu, puisqu'on voit que toute la direction de la référence repose sur un seul spécimen, on a le principe de vérification semble confirmer l'hypothèse de Kripke au moins sur ce plan. C'est que voilà, si vraiment l'individu mâle qu'on a capturé, enfin qu'on a collecté USMM492 est l'holotype du nom Puffinus bryoni, alors il est vrai a priori que il est un puffin de Brian, et on ne peut pas imaginer qu'on se soit trompé et qu'on découvre tout d'un coup que non, mince, on a mal classé USM-92, ce n'est pas un puffin de Brian, mais un puffin d'une autre espèce. Donc les noms de taxons semblent vérifier l'hypothèse de Kripke. Mais voilà le problème, c'est qu'il semble y avoir une famille de contre-exemples potentiels à l'hypothèse de Kripke, c'est ces contre-exemples que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, ils se produisent quand on découvre, fortuitement, empiriquement, que le spécimen type n'est pas de la même espèce que l'espèce que l'on a l'habitude de désigner au moyen du nom. Donc, on utilise le spécimen a servi à introduire un nom. Ce nom, on l'a utilisé, on l'a appliqué. Et on découvre que, on regarde notre usage du nom et on s'aperçoit que l'espèce sur laquelle on a l'habitude d'appliquer le terme n'est pas la même que l'espèce du spécimen type. Comme disent les biologistes, on découvre qu'il y a un conflit taxonomique entre l'holotype et l'usage du nom d'espèce. Alors, si l'hypothèse de Kripke est juste, voilà ce qui doit se passer quand on découvre qu'il y a un conflit taxonomique entre l'holotype et l'usage du nom. Ben, ce que vous faites, c'est comme l'holotype, c'est l'étalon de la référence, il vous dit comment appliquer correctement le nom, vous devez évidemment corriger votre usage du nom et pour l'ajuster à l'holotype. La direction d'ajustement, c'est-à-dire que vous dites, mince, on utilise mal le terme d'espèce. En fait, l'holotype est d'espèce E, nous on l'a appliqué par mégarde à l'espèce E'. Arrêtons ça, utilisons de nouveau le nom pour l'appliquer à l'espèce E, la bonne espèce, celle que fixe l'étalon. Donc normalement, la direction d'ajustement lorsque vous découvrez un conflit taxonomique entre l'holotype et l'usage du nom va de l'usage du nom corrigé à l'aune de l'holotype. Or, il existe bon nombre de cas où on fait l'inverse. Les zoologistes se disent c'est pas le bon spécimen, on va changer de spécimen pour le conformer à l'usage. La direction d'ajustement est inversée. Comme si l'erreur avait été commise sur le spécimen type lui-même et pas sur l'espèce sur laquelle on a l'habitude d'appliquer le nom. Alors non seulement ces cas où on modifie le spécimen type pour l'ajuster à l'usage du nom ne sont pas rares, mais en fait, cette procédure fait même l'objet d'un article du code de nomenclature, l'article 75.6, qui précise dans quelles conditions on a le droit, il est permis de désigner un nouveau spécimen type pour régler le conflit. Nouveau spécimen type qu'on appelle un néotype. Donc, je vous lis encore un peu de poésie, je vous lis cet extrait du code. Donc, procédure de désignation d'un néotype. Maintien de l'usage prédominant par désignation d'un néotype. Si un zoologiste s'aperçoit que le type porte-nom existant d'un taxon nominal du niveau espèce ne s'accorde pas taxonomiquement avec l'usage prédominant de ce nom, et que la stabilité et l'universalité s'en trouvent compromises. Alors la stabilité et l'universalité, ça veut dire le fait que les zoologistes s'accordent sur ce à quoi ils font référence au moyen du nom. Ils devraient maintenir l'usage prédominant et demander à la Commission internationale de nomenclature zoologique de faire exercice de ses pleins pouvoirs pour écarter le type porte-nom, on change le spécimen type existant, et désigner un néotype, donc un nouveau spécimen type. Alors, en guise d'illustration, je vais prendre l'exemple des sous-espèces de la couleuvre rayée. C'est un contre-exemple que Matthew Haber, un philosophe de la biologie, a employé pour dire, voilà, la théorie causale de la référence de Kripke ne correspond pas du tout à la façon dont on assigne les noms de taxons, et la preuve est que dans un certain nombre de cas, on change les spécimens types au profit de l'usage quand on voit qu'il y a un conflit taxonomique, alors que ça ne devrait jamais se produire si les vues de Kripke étaient justes. Donc, le contre-exemple avancé par Matthew Haber, donc ça concerne des sous-espèces de la couleuvre rayée, qui est une couleuvre nord-américaine qu'on trouve sur la côte ouest. Donc de 1941 jusqu'à 1995, on distinguait deux sous-espèces de la couleuvre rayée. Alors son nom latin, c'est Tamnophis sirtalis. Et les deux sous-espèces, c'est d'une part Tamnophis sirtalis infernalis, qui désigne la sous-espèce de la couleuvre rayée qui est vraiment répandue sur toute la côte ouest californienne, qu'on appelle des fois la couleuvre rayée de Californie, que moi je vais appeler la couleuvre commune, pour faire simple. Et d'autre part, on a utilisé le nom de taxon de sous-espèce Tamnophis sirtalis tetratenia pour désigner une autre sous-espèce de la couleuvre rayée, que je vais appeler la couleuvre de San Francisco. Et à la différence de la première, parce que c'est ça l'enjeu, c'est vraiment une sous-espèce très rare. Elle est menacée d'extinction puisque son aire de distribution se limite à la péninsule de San Francisco, et donc elle bénéficie de programmes de protection, de programmes de conservation, alors que l'autre espèce est commune. Et voilà le pot aux roses, c'est qu'en 1995, des zoologistes examinent le spécimen qui s'appelle Emenachen 846. Alors, dans une oreille française, Emenachen, on reconnaît le sigle du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, Emenachen 846 doit être à 1 km de nous, là, quelque part dans un tiroir du muséum, qui a été collecté par un zoologiste, le zoologiste Blainville, en 1835. Et qui sert d'holotype au nom Infernalis. Donc Infernalis, c'est le nom qu'on utilise habituellement pour désigner la couleuvre commune. Et les zoologistes s'aperçoivent que, en fait, l'holotype de Infernalis n'est pas une couleuvre commune. C'est une couleuvre de San Francisco, donc une couleuvre de sous-espèce très rare. Donc il y a un conflit taxonomique. On découvre que depuis 50 ans, on applique Infernalis à la couleuvre commune, alors qu'en réalité, l'holotype du nom est une couleuvre de San Francisco. Donc, ce type de conflit constitue un excellent test de l'hypothèse de Kripke, parce que si l'hypothèse de Kripke est juste, voilà ce qui va se passer. Alors, du point de vue d'après l'hypothèse de Kripke, le conflit, l'erreur qui est à l'origine du conflit ici, elle gît du côté du taxon, de la sous-espèce, et non pas du spécimen type. C'est-à-dire qu'en découvrant que, en fait, que l'holotype du nom Infernalis est une couleuvre de San Francisco, on découvre que le référent conventionnel du nom Infernalis est la couleuvre de San Francisco. Et donc, en appliquant le nom Infernalis à la couleuvre commune, on a commis une erreur d'identification concernant le taxon. C'est-à-dire, on devrait se dire, Infernalis n'est pas la couleuvre à laquelle on pensait. Infernalis n'est pas la couleuvre commune, c'est la couleuvre de San Francisco. Et donc, on devrait s'apercevoir qu'on a nommé à notre insu deux fois la couleuvre de San Francisco, une fois sous le nom Tetratenia, une autre fois sous le nom Infernalis. Et donc, le Kripkien devrait dire ça, et bien sûr, nous dire, concernant la classification du spécimen, rien n'est en cause. Bien sûr que Emenachen 846 est bien une couleuvre Infernalis. Mais voilà, Infernalis n'est pas la couleuvre que l'on pensait. C'est ça Donc pas d'erreur de classification, donc il reste vrai a priori que MNHN 846 est une couleur infernalis. Pas d'erreur de classification, mais une erreur d'identification concernant le taxon lui-même. Et donc, si l'hypothèse de Kripke était juste, on devrait réviser toutes nos descriptions que nous avions faites de Infernalis. On devrait dire, eh bien non, Infernalis n'est pas une espèce commune, c'est une sous-espèce rare, elle n'est pas distribuée sous tout le long de la côte californienne, elle n'existe que dans la péninsule de San Francisco, etc. etc. Et on devrait dire, Infernalis, c'est tétraténien. C'est ça qu'on doit faire le jugement d'identité. Donc, j'ai décrit ce qui aurait dû se produire si l'hypothèse de Kripke était juste. Alors, le problème, c'est que la réaction des zoologistes n'a pas été celle-là. Dans ce qui suit, il faudra bien distinguer les faits, c'est ce qui s'est passé, et leur interprétation que Matthew Haber donne des faits. Parce qu'il y a la latitude, et on verra que, en fait, les faits ne parlent pas d'eux-mêmes et qu'ils peuvent aller tout à fait dans le sens de l'hypothèse de Kripke. Enfin, voici les faits. Donc, la commission de nomenclature internationale de nomenclature, donc elle n'a pas modifié l'usage du nom Infernalis. Donc, comme si on n'avait pas commis en fait d'erreur d'identification sur le taxon. Et au contraire, elle a invoqué l'article 75 du code de nomenclature pour désigner un nouveau spécimen type. Comme si l'erreur gisait dans la classification, c'était le mauvais spécimen, l'usage est bon, mais le spécimen est mauvais. Et donc, elle a abandonné le spécimen type qu'on utilisait depuis Blainville, et elle a signé un nouveau spécimen type qui, lui, est un spécimen de couleuvre commune, pour devenir le nouvel holotype, le néotype de Infernalis. Alors voici l'interprétation, ça c'est les faits, voici l'interprétation qu'on donne à Haber, selon lui, ça montre bien que les zoologistes considèrent qu'on a commis une erreur de classification, et donc on a découvert que si on ne corrige pas l'usage mais qu'on corrige le spécimen type, alors la meilleure interprétation de ça c'est qu'on découvre qu'on s'est trompé en classant MNHN 846 comme une couleuvre Infernalis. MNHN 846 n'est pas une couleur infernaliste, n'est pas une couleur commune. C'est un peu comme si on découvrait que la barre étalon ne faisait pas un mètre. Les zoologistes semblent découvrir que MNHN 846 n'est pas une infernaliste. Ce qui veut dire en fait que il n'est tout simplement pas l'étalon de référence de Infernalis, alors que la barre, elle, on ne peut pas découvrir que la barre ne mesure pas un mètre, car elle est l'étalon du mètre. Donc selon Matthew Haber, il y a une dysanalogie totale entre le cas des termes d'unité de mesure, le mètre, et puis les spécimens qui servent à fixer la référence par ostension. Donc il n'est pas vrai a priori que MNHN 846 est une infernalis. Nous avons découvert que nous avons commis une erreur. Et alors, cela signifie donc que les noms d'espèces ou de sous-espèces n'ont pas leur référence fixée par un spécimen type, si je suis l'interprétation de Haber. Mais alors, par quoi est-elle fixée la référence si ce n'est pas le spécimen type? Et quel est le rôle alors des spécimen types? Donc, tel que je comprends la position de Haber, je pense que ça revient à dire que pour lui, un spécimen type n'est pas un critère constitutif de la référence. Quelque chose qui dirait voici à quelles conditions on tombe dans la référence de Infernalis. C'est un critère épistémique de la référence, c'est-à-dire c'est une aide, un guide à l'identification du référent de la sous-espèce que l'on nomme, mais ce n'est pas lui qui sert à fixer le nom de la sous-espèce. Pour comprendre la différence entre cette distinction entre critères, la distinction que je fais entre critères constitutifs de la référence et critères épistémiques, prenez cette analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais imaginez que quelqu'un connaisse François Recanati uniquement de nom et qu'il prévoit d'aller au collège et de le rencontrer, mais il ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Alors moi je lui donne une photo de François Recanati, je lui dis François Recanati, c'est ça. La photo, clairement, est un critère épistémique, c'est-à-dire du référent, c'est-à-dire que ça va aider Donc le nom François Recanati dans nos bouches a son référent conventionnel fixé indépendamment de la photo. Et la photo sert à reconnaître le référent conventionnel. C'est juste un critère épistémique. On s'en aperçoit que, imaginez que par mégarde, je sors sans regarder une photo d'un certain Smith et je dis François Recanati, c'est ça. Évidemment, que quand je dis François Recanati, c'est ça en montrant la photo, je ne suis pas en train de procéder à une espèce de nouveau baptême qui, désormais, entre vous et moi, le nom François Recanati désignera l'homme quel qu'il soit qui est sur la photo. Parce que, on voit bien, parce que quand je dis François Recanati, c'est ça, bien évidemment que la référence du nom François Recanati ne change pas. Donc, si la photo est un critère constitutif de la référence, bah, ça ferait qu'entre nous, entre lui et moi, cette personne que j'aide à reconnaître François Recanati, le nom François Recanati commencerait à désigner Smith, l'homme de la photo. On voit bien que non, ça ne change rien. La photo est juste une aide à l'identification du référent conventionnel, référent qui a été assigné au nom François Recanati indépendamment de la photo. Donc, je pense que c'est comme ça que Matthew Haber voit le rôle des spécimens types en zoologie, uniquement comme critère épistémique. Mais là, je ne comprends plus, parce que je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-là, ça me paraît très incohérent vis-à-vis de la pratique en zoologie, de dire ça, parce que pourquoi se limiter alors à un seul spécimen? Pourquoi préciser que le spécimen n'a pas été typique? Si c'est un critère d'identification et de référence, il a intérêt à être typique. Vous voyez, c'est un peu comme si, pour reprendre l'analogie, celui qui cherche François Recanati, qui ne sait pas à qui il ressemble, je lui donne une photo de François en culotte courte. Évidemment, c'est à 12 ans. Si c'est une photo de François à 12 ans, ce n'est pas une photo typique. Donc, pourquoi le code insiste sur le fait que la typification, c'est-à-dire l'assignation d'un référent à un nom d'espèce via un spécimen type, le spécimen type n'a pas été typique. Pourquoi même demander à collecter un individu? Pourquoi ne pas remplacer le spécimen type par, je ne sais pas, des planches de dessin comme on les trouve dans les critères, dans les guides d'identification en ornithologie, par exemple. Alors c'est les reptiles. Mais les guides d'identification, en général, n'utilisent jamais de photos, c'est vraiment des dessins, parce que c'est beaucoup plus typique que les photos. Les photos sont toujours atypiques, les dessins sont toujours typiques. Donc, on a du mal à voir comment... Je trouve que... On ne voit pas trop si les spécimens types n'ont pas un rôle constitutif dans la référence. Je ne vois pas trop quel est leur rôle, parce que leur rôle épistémique me semble très faible. Alors, mais surtout, le point qui me chiffonne dans l'interprétation de Haber, c'est qu'en réalité, quand vous regardez ce qui se passe dans les cas de conflit taxinomique entre holotype et usage d'un nom, on voit que, en fait, le problème, c'est qu'en fait, les exemples sont contradictoires. Dans certains cas, oui, il y a désignation de néotype et ça semble parler contre l'hypothèse de Kripke. Dans d'autres cas, ça va tout à fait dans le sens de Kripke. Et donc, le problème, en fait, est que les exemples tirent dans des directions opposées et ce qu'il faut tenter de faire, c'est donner une interprétation cohérente de ces cas-là. Alors, c'est ce que je me propose de faire. Alors, ce que je vais faire, c'est présenter justement des cas qui vont tout à fait semblables à celui des couleuvres, conflit taxinomique entre holotype et usage, et qui se résorbent, ce conflit est résorbé conformément à ce que prédit l'hypothèse de Kripke. Parmi les nombreux cas qu'on peut trouver, j'ai trouvé l'exemple des poissons-chats africains. Certaines espèces. Donc, jusqu'en 1990, on distinguait deux espèces, au moins il y en a d'autres, hein, mais au moins deux espèces de poissons-chats en Afrique, qu'on désignait au moyen de noms différents. Donc, d'une part, le nom Skilbe mistus, pour désigner une espèce qui a très large distribution en Afrique, elle est présente dans toute l'Afrique, excepté l'Afrique du Nord, donc une espèce commune, un peu comme. Infernalis, la couleuvre commune. Et puis d'autre part, le nom Skilbe, on utilisait le nom Skilbe niloticus pour désigner une espèce qui était, dont l'aire de distribution se limitait au bassin du Nil. Bon, donc que je vais appeler le poisson-chat du Nil pour faire court. Et donc, dans un article paru en 1990, des zoologistes révèlent, c'est Potoros de nouveau, que l'holotype du nom Mistus. Alors, le nom Mistus, c'est le nom que le grand Linné lui-même, en 1758, avait donné au poisson-chat, à ce poisson-chat. L'holotype du nom Mistus, qui avait été sélectionné par Linné, n'est pas de la même espèce que celle à laquelle on applique habituellement le nom Mistus. Donc, il s'avère que l'holotype qu'a choisi Linné est un poisson-chat du Nil, tandis que le nom Mistus est employé depuis des dizaines d'années pour désigner le poisson-chat commun. Donc on a donc affaire ici à un cas de conflit tout à fait analogue à celui des couleuvres. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle a été la réaction des zoologistes et notamment de la commission de nomenclature, qui a considéré qu'on avait commis une erreur d'identification sur le taxon et non pas une erreur de classification sur l'holotype. Donc le raisonnement tenu par la commission de nomenclature, tel qu'on peut le lire dans l'article où figurent les actes de sa décision, l'holotype de Linné, c'est NHRM 63. Considérant que l'holotype était un poisson-chat du Nil, la commission dit explicitement que le terme Mistus est alors synonyme du terme niloticus. Alors en zoologie, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'en fait du langage. Nous, en fait du langage, ça voudrait dire cognitivement synonyme. Alors évidemment, ils ne sont pas synonymes. Personne ne peut savoir que Mistus, c'est niloticus a priori. Il faut comparer les exemplaires et puis se dire ils sont la même espèce ou pas. Donc ça, c'est une question empirique. Ils ne sont pas synonymes, mais en zoologie, synonyme veut dire juste co-référentiel. En nomenclature zoologique, quand on dit que deux noms de taxons sont synonymes, ça veut juste qu'ils ont la même référence. Donc des fois, il y a des noms, on ne le sait pas, ils sont synonymes, ils ont la même référence, mais on le découvre plus tard. Donc en tout cas, la commission considère que, puisque par définition, l'holotype fixe la référence du nom Mistus, et que l'holotype est un poisson-chat du Nil, alors le nom Mistus désigne le poisson-chat du Nil. Et donc le poisson-chat, le Mistus, a la même référence que le nom Niloticus, qui lui aussi désigne le poisson-chat du Nil. Donc la commission considère qu'on s'est donc trompé sur ce qu'est Mistus. Donc NHRM 63 est bien un Mistus. Donc il est vrai a priori que l'étalon de Mistus est un Mistus. Mais Mistus n'est pas l'espèce à laquelle on pensait. Mistus, c'est le poisson-chat du Nil et non pas le poisson-chat commun. Et donc, la commission a invité à réviser toutes les descriptions qu'on a pu faire de Mistus. Donc, non, Mistus n'est pas répartie dans toute l'Afrique, elle n'est présente que dans le bassin du Nil, etc. etc. Et là, bon, c'est ce qu'on fait. Et la commission va plus loin parce que, réfléchissant sur le fait que on découvre en fait que une même espèce, le poisson-chat du Nil, a deux noms, Niloticus et Mistus, mais ça c'est interdit, c'est formellement interdit d'utiliser deux noms pour un même taxon en zoologie, pour des raisons évidentes de quiproquo et d'encombrement du lexique. En zoologie, c'est la correspondance bunivoque, c'est un taxon, un nom. Et donc, il existe un principe dans le code, qui est le principe de priorité, qui est que quand on découvre qu'à notre insu, on a nommé deux fois un même taxon, eh bien, il faut supprimer un nom et garder le nom le plus ancien. C'est lui qui a priorité. Et comme Linné, en nommant Mistus avec l'holotype NHRM 63, en fait, vous voyez, Linné, c'est en 1758 qu'il utilise NHRM 63, qui est un poisson-chat du Nil. Et Ruppel, quand il croit nommer une espèce jamais nommée, alors en fait, elle a déjà été nommée, mais en 1829, qu'il utilise un autre spécimen type, Ruppel, c'est après 1829. Donc le nom Niloticus pour désigner le poisson-chat du Nil est plus récent que le nom Mistus pour désigner le poisson-chat du Nil. Donc la commission a demandé à ce qu'on éteigne l'usage du nom Niloticus et qu'on garde Mistus uniquement pour le poisson-chat du Nil. Mais du coup, la commission nous révèle que, en fait, le poisson-chat commun, aussi commun soit-il, n'a jamais été nommé. Il n'a jamais eu de nom, en fait. On a utilisé à tort un nom, mais en fait, ce n'est pas son nom. Et donc, il est orphelin de nom. Et il faut donc lui, ils ont recherché pour voir si quelqu'un un jour avait essayé de nommer cette espèce au moyen d'un des exemplaires de Boisson-Chat commun. Ils en ont trouvé un, et donc ils ont réactivé ce vieux nom qui était obsolète. Et maintenant, le poisson-chat du commun s'appelle le Scilbe intermedius. Donc voilà. Là, on voit que ça tire dans des directions opposées. Comment résoudre ? Est-ce que les zoologistes sont contradictoires ? Des fois, ils changent le spécimen type pour le conformer à l'usage. Des fois, c'est l'inverse. On change l'usage pour le conformer à spécimen type. Comment résoudre le conflit ? Il me semble que le conflit peut se résoudre assez simplement grâce à une distinction, encore une fois, de... Mince, là aussi, je me suis... J'ai encore oublié de faire défiler les diapos. En s'appuyant sur une distinction que fait Kripke, qui est très connue, entre le référent conventionnel d'un nom et le référent qu'on appelle le référent d'usage ou du locuteur d'un nom. Alors, parce qu'en fait, ce que je pense qui se produit dans le cas des couleuvres, c'est pas que le spécimen type n'est pas de la même espèce que celle qui est désignée conventionnellement par le nom dont il est le spécimen type, c'est qu'en fait, le référent conventionnel du nom dont il est l'holotype, c'est bien l'espèce du holotype. Il n'y a pas du tout de conflit taxonomique entre l'espèce du holotype et l'espèce qui est conventionnellement désignée par le nom de taxon, mais il y a un conflit entre le référent conventionnel du nom de taxon, tel qu'il est fixé par l'holotype, et son référent d'usage. Et donc, il faut distinguer le référent conventionnel d'un nom de taxon et le référent d'usage. Et pour ça, je vais m'appuyer sur cette distinction de Kripke. Donc imaginez par exemple que je me promène et que tout d'un coup je crois reconnaître Bruce Willis dans ma boulangerie de quartier. Évidemment, ce n'est pas Bruce Willis, c'est son sosie. Et donc je reviens tout essoufflé et je vous dis figure-toi que ce matin j'ai croisé Bruce Willis à la boulangerie. Est-ce que l'énoncé 1 est vrai ? Intuitivement, il est sans ambiguïté faux. Pourquoi ? Parce qu'en utilisant le nom propre Bruce Willis, j'avais l'intention de faire référence à son référent conventionnel, d'utiliser le nom propre tel que tout le monde l'utilise, et comme le référent conventionnel du nom Bruce Willis, c'est le célèbre acteur, et que ce que j'ai croisé ce matin, ce n'était pas le célèbre acteur, mais son sosie, ce que je dis est littéralement faux. Mais maintenant, les choses se compliquent. Imaginez que vous et moi, on ait l'habitude de croiser ce sosie, que vous comme moi, vous êtes absolument persuadé que c'est Bruce Willis. Donc, nous commençons à utiliser le nom Bruce Willis pour désigner quelqu'un que nous connaissons bien de vue et que nous pensons être Bruce Willis. Je me promène avec vous et je vois le sosie en train de repeindre sa façade de maison. Je dis, tiens, regarde, Bruce Willis repeint sa façade de maison. Question, est-ce que 2 est vrai ou faux ? Là, on a un sentiment mêlé. C'est-à-dire, on se dit, oui, il y a quelque chose de faux, mais il y a un petit grain de vérité là-dedans. Alors, ce petit grain de vérité, Kripke nous invite à mieux le comprendre en distinguant deux intentions référentielles. Certes, en un sens, si on regarde ce que dit littéralement l'énoncé 2, l'énoncé 2 est faux. Pourquoi ? Parce que j'utilisais le nom Bruce Willis, et comme dit Kripke, en l'utilisant, j'avais l'intention référentielle générale, c'est le terme qu'il emploie, d'utiliser le nom Bruce Willis pour désigner son référent conventionnel, au sens où tout le monde l'utilise. Dans ce cas-là, j'ai exprimé la proposition que Bruce Willis repeint la façade de sa maison, et c'est bien entendu faux. Mais, dit Kripke, j'avais aussi une autre intention, parce que comme je crois que Bruce Willis est aussi cet homme que nous savons identifier perceptivement indépendamment de la pratique du nom Bruce Willis, j'ai en proférant deux, j'avais aussi l'intention référentielle spécifique, dit Kripke, de désigner cet homme que vous et moi nous connaissons perceptivement indépendamment de la pratique du nom. Et alors, évidemment, comme je suis persuadé que cet homme c'est Bruce Willis, je ne pense pas que mes intentions se dédoublent. Elles ont le même objet. Le problème, c'est que je me trompe. Donc, mon intention référentielle générale a pour objet Bruce Willis, tandis que mon intention référentielle spécifique a pour objet le sosie. Et ce faisant, je communique pragmatiquement. Alors, je dis quelque chose de faux concernant Bruce Willis, en vertu de mon intention référentielle générale, mais en vertu de mon intention référentielle spécifique qui est dirigée sur le sosie, je communique pragmatiquement une autre proposition qui est vraie, celle-là, puisque le sosie repeint bien sa façade. Et donc, c'est à mon avis exactement ce qui se passe dans le cas, des couleuvres. C'est pas un conflit entre l'holotype et le référent conventionnel du nom. C'est un conflit, donc l'holotype et le référent conventionnel du nom d'espèce s'alignent sur l'espèce de l'holotype. Donc la thèse d'apriorité est maintenue, d'immunisation est maintenue. Mais ce qui se passe, c'est que nous développons un usage qui est déviant par rapport au référent conventionnel. Donc le référent conventionnel de Infernalis la couleuvre de San Francisco, la sous-espèce rare. Mais nous avons développé un usage déviant, comme pour l'exemple de tout à l'heure de Bruce Willis. Nous avons pris la mauvaise habitude de communiquer à l'aide de ce nom qui n'est pas approprié des vérités concernant la couleuvre commune. Alors, ce que je dis est non seulement, je veux dire que c'est quelque chose qui va tout à fait quand on lit les actes. De la commission, on voit que ça reflète, c'est exactement ce que disent les auteurs. Par exemple, ceux qui ont proposé le changement de néotype disent, ils utilisent le même vocabulaire, ils disent, voilà, nous avons découvert qu'il y avait synonymie entre Infernalis et donc Tetratenia. Ça veut dire qu'ils considèrent que comme Infernalis est un holotype qui est une couleuvre de San Francisco, de fait, du coup, la référence de Infernalis est vraiment la même que la référence de Tetratenia. Donc, on voit bien que ils reconnaissent que le référent conventionnel, dans notre terminologie, c'est bien la couleuvre à laquelle appartient le spécimen type. Mais il y a un désaccord entre ce référent conventionnel et le référent d'usage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit en fait quand on regarde. Je reviens en arrière. Quand on regarde la procédure de désignation d'un néotype, le conflit taxonomique n'est pas du tout entre le spécimen type et le référent conventionnel du nom qu'il typifie. C'est entre le référent conventionnel du nom ainsi typifié avec la commission de nomenclature, le code appelle un usage, l'usage prédominant d'un terme d'espèce. Un usage prédominant, c'est un terme technique, alors pour eux c'est un usage qui est déviant mais qui est massif, c'est-à-dire que la plupart des auteurs dans un temps récent, il faut qu'elle soit dans les 50 dernières années, est dévié de cet usage. Il faut qu'il soit non ambigu, bien que déviant, il doit être non ambigu, précise le code. C'est-à-dire, c'est pas que tous les gens utilisent comme ils veulent le nom, c'est qu'il y a une espèce d'erreur d'application sur laquelle tout le monde converge. Et il doit être régulier. C'est-à-dire régulier, ça veut dire qu'au moins pendant 10 ans, des gens ont fait cet usage déviant du nom. Et dans ce cas-là, ce que prévoit en réalité le code, c'est ni plus ni moins que, pour des raisons évidentes de protection de l'espèce, alors là, il y a des raisons qui sont complètement extrinsèques à la science, c'est juste à la conservation des espèces, pour éviter tout quiproquo qui pourrait être préjudiciable à la conservation de ces sous-espèces, je pourrais rentrer un peu dans les détails, mais ce que l'on fait, c'est que l'on décide en fait de changer la signification conventionnelle du nom de taxon. C'est-à-dire quand on change de spécimen type, changer de spécimen type, c'est pas juste on garde le nom d'espèce à la même sens et puis on change de spécimen type ou d'illustration de l'espèce. Le jour où on a remplacé le spécimen type qui donc la couleuvre de l'espèce, l'individu de couleuvre de San Francisco qui typifiait donc il y a Tetratenia, merci, j'ai oublié son petit nom. Infernalis, merci. Donc le jour où on a changé de spécimen type et qu'on a assigné un nouveau spécimen type au nom Infernalis, on a changé la signification conventionnelle d'Infernalis. C'est juste à ce moment-là, on a décidé, donc c'est une nouvelle stipulation, et donc c'est deux noms différents, c'est-à-dire Infernalis avant 1995 et Infernalis après 1995, ce sont des homonymes, hein, c'est-à-dire ça se prononce pareil, mais la signification conventionnelle a changé en changeant le spécimen type. Et donc, alors, si vous me demandez, si on revient à mon... Là, j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe, et donc je vais arriver à la conclusion. En revenant à mon propos, si vous me demandez, bah alors, est-ce qu'il est toujours vrai a priori que Emen Hachen 1146 est une couleuvre infernalis? Parce que me dire, bah non, maintenant c'est faux. Vous me dites que maintenant, bah, comme infernalis, on a changé le spécimen type, bah maintenant infernalis désigne la couleuvre commune, et Emen Hachen 1146 est une couleuvre de San Francisco, donc l'énoncé est faux. Oui, l'énoncé est faux, mais ça ne veut pas dire. C'est-à-dire, dire, bah, s'il était vrai avant, maintenant il est faux, donc ça veut dire qu'il a jamais été, il n'est pas vrai a priori. Non, ça c'est un fait trivial que si vous changez la signification conventionnelle des mots d'une partie d'un énoncé, vous pouvez transformer n'importe quel énoncé vrai a priori en fausseté. Si je vous dis Pierre est philosophe ou Pierre n'est pas un philosophe, est-ce que l'énoncé vrai a priori, étant donné le sens qu'on donne à la Dijon, ou en français? Oui, l'énoncé vrai a priori, c'est une instance du tiers exclu. On peut l'admettre comme ça. Mais maintenant, évidemment, si je dis, mais décidons entre nous, là, juste pendant 5 minutes, d'utiliser ou en français pour dire et, la conjonction. Bah, dans ce cas-là, l'énoncé, si je change la signification conventionnelle du terme ou en français, l'énoncé exprime une contradiction qui est fausse. Mais d'aucune façon, évidemment, le fait que je change le sens conventionnel des mots et que je transforme un énoncé vrai en faux, cela montre que l'énoncé n'était pas vrai a priori. Ce qu'on appelle un énoncé vrai a priori, c'est étant donné la signification actuelle des expressions qui le composent, cet énoncé est vrai indépendamment du fait qu'on puisse le vérifier par expérience. Donc, le fait que Emen Hachen 1146 maintenant est faux n'est aucunement une objection à l'encontre de l'idée qu'il était vrai a priori avant de changer la signification conventionnelle du terme infernalis. Il était vrai a priori que Emen Hachen 1146 était une couleur infernalis. Alors, je conclue très brièvement. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que au moins pour ce qui concerne les noms d'espèces en zoologie, la façon dont on assigne la référence à ces noms d'espèces par des spécimen types confirme l'hypothèse de Kripke d'une fixation par ostension au sens fort des termes d'espèces naturelles. Mais le bémol que je mettrais, c'est que ce ne la vaut que pour les noms de taxons en zoologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle explicite qui dit qu'il y a une autorité référentielle des usages originaires, ceux qui sont fixés par la typification, par rapport aux usages ultérieurs. Mais cette règle, à mon sens, n'existe pas pour ce qu'on appelle les noms vernaculaires. Comme on sait, les noms vernaculaires, je ne pense pas qu'on puisse défendre une théorie causale historique de la référence. Une théorie causale, oui, mais une théorie causale historique, voilà, il y a un article célèbre de Gareth Evans qui critique la théorie causale historique de Kripke en disant « Oui, alors c'est bien une relation causale qui assigne un référent à un nom, mais si on fait un usage qui devient déviant, mais qui devient massif et régulier, eh bien la référence peut se déplacer, et la référence d'un nom, c'est pas l'objet sur lequel à l'origine qu'on avait baptisé à l'origine moyen de ce nom, mais c'est la source causale dominante actuelle, dominante dans les informations qui remontent, qui circulent avec ce nom, qui est le référent du nom. Donc il n'y a pas de priorité des usages originaires pour tous les autres noms sur les usages ultérieurs. Mais en zoologie, il y a une règle qui est explicite et qui en plus qui figure, je veux dire, elle figure en creux dans la façon même dont on utilise les noms. Vous voyez par exemple ici, le code précise bien que quand vous nommez, ça c'est une règle générale, quand vous nommez une espèce ou une sous-espèce ou un taxon en général pour la première fois dans un article, c'est-à-dire c'est la première fois que le mot figure dans votre article, vous devez non seulement mettre le binom latin ou le trinom latin, mais vous faites suivre ensuite celui qui a nommé, le découvreur, et ensuite l'année du baptême. Donc dans la forme même du nom est inscrite la préséance des usages originaires. C'est l'usage du baptême par ostension. Voilà, merci pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.